Chapitre 6e. La correspondance. Et Gilles s'en revenait tout ragaillardi, parce qu'il s'était donné beaucoup de mal, avait passé la nuit dehors, avait causé ou cru causer avec quelqu'un, ce qui revient exactement même, et parce qu'aussi, ayant grand besoin d'être consolé, il avait ajouté foi, volontiers, au témoignage de la lettre déchiffrée. Mais sa femme ne s'en laissait point compter de la sorte, et il eut beau affirmer que le frère Hildebert s'était trouvé pleinement d'accord avec le fils du conseiller Périnel sur le sens de la lettre, la mère Gilles lui jeta au nez qu'il n'était qu'un vieux sot, depuis longtemps crédule à toute bilbesée, et qui s'en allait à présent croire à un mot d'écrit trouvé dans la poêle à frire. Quant à elle, non, ses filles avaient été enlevées, bien enlevées, par deux vieilles sorcières, qui ne lui avaient jamais rien dit de bon. La faute en était à l'insanité et à l'orgueil du père, infatué de toute nouveauté, et n'ayant à cœur que de faire de filles de bûcherons des princesses. La mère Gilles n'admettait aucune consolation. Il ne croyait à nulle chose, hormis à celle que lui dictait son sens commun. Il pouvait tomber du papier dans la poêle ou dans la soupière, elle n'en estimerait pas moins ses filles plus sûrement inexistantes que s'ils étaient mortes de maladie, car dans ce cas au moins, elle les saurait au lieu où vont les chrétiens et les honnêtes gens, tandis que, nonobstant toutes les belles écritures, elle estimait ses filles perdues, quant à leurs âmes, par le fait du regrettable marché conclu dans les pavillons de malheur. Le bûcheron, ayant subi cette algarade, s'en fut à son travail, l'échine courbée, car il était à présent plus troublé par l'opinion de sa bourgeoise qu'il ne l'avait été par le langage abondant de frère Hildebert. Après qu'un assez long temps se fût écoulé, une lettre, en tout point semblable à la première, du moins en apparence, se trouva non dans la poêle, en vérité, ni dans aucun lieu propre à faire croire à un pouvoir magique, mais là, tout simplement, sur la table, entre la miche de pain et le fromage. La mère Gilles haussa les épaules et déclara qu'au jour d'aujourd'hui, ses deux filles entreraient par la porte, comme tout le monde, qu'elle ne croirait point les voir et ne leur ferait nul bon accueil. Elle en fut quitte pour son affirmation de principe, car son mari, lui, sans prendre la peine de l'entendre, courait à la ville afin d'avoir lecture de la nouvelle missive, et sa femme lui criait « Tu vas arriver là-bas de nuit, vieux fou, comme l'autre fois, et tu coucheras encore dehors avec des porteurs de vermine. » Mais Gilles était déjà loin, et arriver de nuit ne l'effrayait pas, pourvu qu'il rencontrât encore frère Hildebert. Et en effet, il arriva de nuit, passé le couvre-feu, et trouva porte close. Mais parmi les 100 logis, coureurs de grands chemins et gibiers de potence qu'il côtoyait, il ne rencontra point son prémontré. Et comme il s'informait de l'ancien religieux, on lui rit au nez. Hildebert était en prison. La nouvelle n'était pas de celles qui confondent la raison. Mais Gilles, ayant demandé le motif qui avait valu au vieillard cette disgrâce, il lui fut répondu qu'il n'y avait pas à se mettre en peine de l'individu. Il saurait bien se tirer d'affaire, étant homme à rompre les barreaux de sa geôle par un seul geste du petit doigt. « Mais qu'a-t-il donc fait ?» demanda Gilles. « Il est dangereux, » dit un cheminot. « Mais encore, il se met à présent à guérir les convulsions et les rages de dents. » « Je n'y vois point de mal, » dit le bûcheron. « Sans doute, si pour cela il employait les moyens ordinaires. » Alors Gilles se souvint que le moine avouait qu'il était atteint du mal d'invention. « Il pratique les maléfices, » lui fut-il dit. Le père Gilles allait en oublier sa lettre. Il eût aussi bien fait, car s'il se trouvait là un cuidam qui se déclarait capable de lire son pater, du moins ne le pouvait-il faire à la nuit noire. Et Gilles pesta jusqu'au petit jour, n'étant pas endormi cette fois par des propos disert et philosophiques. Mais au matin, il ne se sentit aucune confiance en celui de ses compagnons qui prétendait savoir lire son pater, et il entra dans la ville afin de s'y informer, en premier lieu, du moine prisonnier. Ayant su que le savant homme était enfermé au Châtelet, il s'y rendit, et il parvint à être admis dans une cour infecte sur laquelle donnait une étroite fenêtre grillée. Gilles se mit en quête d'une grosse pierre, afin de se hisser jusqu'à la grille, de se faire reconnaître du prisonnier, et d'autre part, d'être bien sûr que c'était à lui et à nul autre qu'il avait affaire. Ainsi juché, il cria « Ohé, est-ce bien vous, frère Hildebert ?» Et il vit en effet s'approcher des barreaux à la bonne tête aux yeux vifs de frère Hildebert. Alors, comme signe de reconnaissance, il lui tendit la lettre dont il désirait connaître le contenu, avant même de demander des nouvelles de l'infortuné. Mais celui-ci, qui de son côté était plus pressé de parler de lui-même que de tout autre sujet, lui disait « Eh bien oui, me voilà à couvert. Ils ont bien fait, » ajoutait-il, « car j'ai été repris par mon péché. » L'autre avait oublié le péché qui avait valu au religieux d'être expulsé de son couvent. « Mon péché? Mais mon goût immodéré pour la damnée chose matérielle? Ne me mettais-je pas tout de bon à faire des miracles? Notre Seigneur en a fait. Lui, c'était pour donner classe à toute puissance, tandis que moi, c'est pour amour de l'art. Je n'ai que ce que je mérite. Mais votre science ne peut-elle pas vous aider à sortir de ce trou? Le ciel m'en garde, » dit l'ancien moine. « Je suis trop heureux, aussitôt libre et en présence des choses admirables de la nature, dont j'ai envie de changer toutes les combinaisons. C'est dégoûtant d'être ainsi fait. La pénitence m'est nécessaire. Songez que même ici, où je ne vois que l'eau de ma cruche, je suis tenté d'utiliser ce liquide innocent que je me souviens d'avoir vu bouillir autrefois. Oui, de l'utiliser à des choses dont il vaut mieux ne pas parler. Ma cervelle, monsieur, est comme un moût qui fermente. Et au lieu de tourner à l'amélioration des hommes, ce satané génie ne cherche qu'à jouer de la matière. « Pourriez-vous me lire cette lettre ?» demanda Gilles. « C'est qu'il y en a long cette fois. »« Je crois bien, » dit frère Hildebert. « Ce sont deux lettres et non pas une. Elles ne sont pas de même écriture. Souvenez-vous que j'ai deux filles bessonnes et qui savent lire et écrire. »« Voilà, » dit le moine prisonnier. « Cher papa et chère maman, » nous sommes arrivés dans un pays où la température est exquise et où tout ce qu'on voit est propre à nous ravir. Il y a un fleuve dont les eaux ne sont ni bleues ni vertes, comme chez nous, mais plutôt de la couleur d'un beau soleil qui se couche. On voit chaque soir des feux d'artifice, chose plus belle que nature. Figurez-vous que toute la forêt brûle, oui, mais pendant des semaines de suite. Nous venons d'assister à un splendide défilé de gendarmes, à la tête desquels, dit-on, était le roi. Ces grandes fêtes vont finir. C'est bien malheureux. Mais certaines gens prétendent que l'on nous réserve des surprises et que l'on verra mieux encore. Je n'ai pas besoin de vous dire que j'ai du goût pour le voyage. On ne peut rien imaginer de plus amusant. Ces dames sont excellentes. Elles nous aiment, ma sœur et moi, comme elles s'aiment mutuellement. Votre fille obéissante et dévouée, Gilette. Elles ne s'embêtent pas, vos filles, dit le moine. Mais où sont-elles? Oh! Pour Gilette, elle est dans un beau pays où l'on voit de belles choses et le nom lui importe peu. « Voyons l'autre, » dit frère Hildebert. « Mes chers parents, tout d'abord, j'ai idée que vous ne devez pas être contents de nous. Peut-être, car notre départ a été brusque, et c'est une singulière manière d'agir pour des filles que de s'en aller ainsi en un si long voyage, sans avoir l'assentiment ni de son père ni de sa mère. Mais il paraît qu'il n'y avait pas à tergiverser, que d'abord, quand on fait son éducation, il la faut faire complète, qu'une bonne éducation comporte de longs voyages, qu'enfin, pour ces voyages, le vent était tel qu'il fallait, et il ne l'aurait sans doute plus jamais été. Si je m'expliquais plus clairement, je vous livrerais le secret de la manière dont nous voyageons, et ce n'est pas possible. Sachez seulement que si je vous ai parlé du vent, ce n'est pas à l'étourdi, et que nous voyageons sans toucher terre et cependant non par eau. Or, ça n'est pas sans inconvénient. Quelques-uns nous prennent pour des oiseaux et nous envient. Mais quelques-uns aussi nous tirent dessus avec leurs mousquets, et il faut recourir à des manœuvres pour échapper au danger. D'autres fois, la grande difficulté est de savoir où se poser, car tous les endroits ne sont pas bons, et fort peu offrent la sécurité. Il ne m'est pas permis de vous dire où nous sommes, car être ici paraîtrait chez vous invraisemblable, et nous risquerions de nous faire condamner au bûcher lorsque nous retournerions au pays. La nation qui nous abrite est en guerre avec deux de ses voisines. Il y a eu d'horribles batailles. Le sang coule à ce point que le fleuve qui roule des cadavres n'est composé lui-même à peu près que du liquide répandu par les blessures sans nombre. On tire ici à l'aide d'une artillerie bien plus perfectionnée que la nôtre et qui enflamme tout l'horizon. On nous a menés naturellement dans le pays destiné à être victorieux, parce qu'on y court relativement moins de périls. Et nous avons vu tantôt défiler les troupes du général vainqueur. Elles étaient très abîmées, mais les hommes sont partout courageux. C'est même, je vous dirais, la seule chose louable que j'ai reconnue, car pour ce qui est du reste, mieux vaut demeurer au fond de notre forêt. Je me demande même pourquoi l'on cherche à voir ou à prendre tant, alors que la plus grande partie de ce qu'on voit est à vous détourner d'en voir davantage. Il y a toutefois une chose drôle, c'est d'entendre se disputer Madame je ne sais qui et Madame à qui est-elle. Je n'ai jamais rien rencontré de plus comique, et cela console de beaucoup d'incommodités. Elles ne sont jamais d'accord. Elles se chamaillent comme deux poules. L'une appelle blanc ce qui est noir et l'autre noir ce qui est blanc. Madame je ne sais qui pousse l'aménité jusqu'à trouver parfaites les opinions de sa sœur, qui sont exactement contraires aux siennes, mais cela révolte l'aînée. Celle-ci dit alors à sa cadette tant de mal de ses opinions et des gens défendus par elle que l'autre, qui veut ces gens tous parfaits et leurs opinions toutes bonnes, finit par les défendre avec une impétuosité héroïque ou bien se montre accablé par le chagrin quand on lui démontre qu'il y a des créatures mauvaises. Et le rire nous en prend à toutes, même à l'accusatrice et même à Gillette, qui, comme il convient, est toujours de l'avis de sa maîtresse. De sorte que c'est de nos propres mots que nous tirons et notre remède et notre principal agrément, et que souvent, de nous rendre compte que nous sommes insupportables, nous amène à nous supporter. Ma maîtresse m'a dit que lorsqu'on sait beaucoup, le principal résultat est de se trouver d'un avis opposé à celui des autres et fréquemment au sien propre. Elle dit que savoir engendre forcément discussion, doute et incrédulité. « Alors pourquoi prenons-nous ? » lui ai-je demandé. Elle m'a répondu « Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. » À l'heure où je vous écris, le peuple victorieux n'est pas content parce qu'il pense avec raison que le vaincu voudra être vainqueur demain. Alors il est question que les vainqueurs d'aujourd'hui se mangent les uns les autres en attendant qu'ils soient vaincus. Nos maîtresses ont décidé que nous avions vu ici assez de choses instructives. Pour une fois, elles sont tombées d'accord et nous repartons vers un pays nouveau. C'est bien commode. Voilà, mes chers parents. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, mais je crains que vous n'ayez déjà de la peine à vous faire lire cela. De vos nouvelles qui nous manquent, mon Dieu, nous ne nous mettons point trop en peine, car nous savons que votre vie est régulière et monotone, ce qui s'appelle heureuse. Je vous embrasse tendrement, Gillonne. L'ancien prémontré retenait les deux lettres dans sa main tremblante. « Ça vous fatigue de lire ? » demanda Gilles. « Ce n'est pas cela, » dit le prisonnier. « Mais je vois par cette lettre qu'ils ont tout découvert. »«
Quoi ?
Ils ont découvert ce que je cherchais. »«
Vous cherchez à m'enlever mes filles ?
Non, mais à voyager. »
Et il répéta
« Voyager ». Son œil de rêveur se fixa au loin. Il voyait sans doute de fantastiques moyens de transport et le globe entier roulant sous ses pieds comme une boule. Aussitôt, il fit son signe de croix et s'agenouilla dans le cachot. Il demandait pardon à Dieu d'une concupiscence excessive et qu'il jugeait criminelle. À peine réapparu à la fenêtre grillée, il dit à Gilles « Ce n'est pas tout ça, mon bonhomme. Il faut que vous teniez ces lettres soigneusement secrètes. Je ne peux manquer de donner à ma femme des nouvelles de ses filles. Et comment tiendrai-je ma langue vis-à-vis des amis qui croient que mes deux petites ont mal tourné ?»«
En ce cas, vous êtes perdu, »
dit frère Hildebert.
« Comment cela ?»«
Votre fille prend la précaution de vous en avertir elle-même. »«
Je vous vois cuit et rôti avant moi, vous et votre progéniture. » »«
Ignoriez-vous que toutes ces innovations diaboliques étaient à bon droit, mal vues par les gens sages ?»«
Voyons, de vous à moi, entre quelles mains sont-elles ? » ?»«
Et par quel diable ?» Les avez-vous fait éduquer ?
Il fallut que Gilles racontât tout ce qui était advenu depuis la rencontre de la fée Malice.
L'ancien religieux retomba encore une fois à genoux après force signe de croix, puis il dit « Je ne doute plus de quel seigneur proviennent les imaginations dont je suis assailli. J'en avais le triste pressentiment. On a bien fait de me jeter à la porte du couvent, oui. Mais je veux rentrer en grâce. Je me ferai exorciser. » J'irai à Rome à pied s'il le faut.
Parbleu, vous aimez le voyage,
dit Gilles. Ah, vous avez raison, simple homme des bois, fit Hildebert. Et voyez, jusqu'en mes moments de contrition la plus vive, le malin vient me tendre des pièges. C'est le voyage qui me plaisait, et je gage que pour aller à Rome, j'eusse construit quelque ustensile inouï.
Moi, dit l'homme des bois,
je crois tout bonnement que la prison vous est contraire. Et si je pouvais vous tirer de là,
n'en faites rien.
Quand vous connaîtriez des puissants du monde, dit l'ancien moine, car je commettrai le mal encore plus sûrement au dehors qu'au dedans. Mais si la réclusion vous effraie, ne vous exposez pas vous-même à la subir. Vous avez dans votre poche de quoi vous faire monter sur le bûcher. Adieu et merci, frère Hildebert, portez-vous bien. » Gilles s'en alla à l'auberge où il avait tué le vert lors de son dernier voyage à la ville en compagnie du défroqué. Il demeurait perplexe et ruminait plusieurs choses à la fois dans sa tête. Il n'était pas assis là depuis un quart d'heure, sous le cep qui tord ses vieux câbles le long de la maison, qu'il vit arriver vers lui, toujours fidèle à l'heure de l'office matinal, le jeune Loïs, le fils de monsieur le conseiller Périnel. À sa grande surprise, cette fois-ci, c'était le fils du conseiller Périnel qui avait l'air de le chercher. Loïs avait mis son beau cheval bai au pas et il lorgnait attentivement les gens de l'auberge. Il appela en effet Gilles par son nom et lui fit signe de s'approcher. « Avez-vous des nouvelles ?» demanda Loïs. « Et de qui donc ?» fit Gilles stupéfait. « Mais de vos charmantes filles, parbleu !» dit le propre fils du conseiller au Parlement. « Vous savez que je raffole des voyages, quoique je ne sois jamais allé nulle part. Mais je n'aurais rien autant aimé que d'en faire un, surtout un tel que celui qu'elles font, j'imagine. » Et se disant, ses yeux quittèrent le monde visible et s'égarèrent un long moment dans l'azur matinal. Comme le religieux tourmenté du démon, ce jeune homme rêvait à des voyages. Puis il poussa un gros soupir et dit « Vous n'avez donc rien à me faire lire ce matin ?» Il n'eut point de peine, ayant été très bien instruit à la fois par les deux dames, c'est-à-dire étant habile à interpréter les choses de la manière la plus favorable et aussi à les juger implacablement, il n'eut point de peine à démêler, dans l'attitude du père d'Épessonne, un grand embarras. « Quelqu'un vous a déjà rendu ce service, je parie ? Vous connaissez Desclerc, père Gilles ?»« Desclerc ? Oui et non. Si c'était un effet de votre bonté, j'irai vous expliquer cela un peu plus loin des yeux et des oreilles. » « Venez donc, » dit Loïs. Gilles régla son écho et, enrichi de la considération de l'aubergiste et de ses clients, à cause des belles relations qu'il avait, il s'en alla, sous un orme, rejoindre le fils du conseiller au Parlement, lequel avait mis, s'il vous plaît, pied à terre. Gilles lui demanda de jurer sur le sacrement qu'il ne dévoilerait à qui que ce soit, même en confession, le secret qu'il allait lui confier. Et avant de lui donner à lire ces deux lettres, il lui narra toute l'histoire de l'infortuné frère Hildebert. Le bûcheron, qui était sans malignité et qui croyait ne s'adresser qu'à un puissant personnage capable de faire élargir le prisonnier, ne se doutait pas que le fils du conseiller Périnel, élève des deux dames, et versé en toute science dès son jeune âge, mais retiré à temps, selon la parole même du prémontré, portait un intérêt particulier à toutes les choses qui troublaient la cervelle d'Hildebert. Loïs promit d'aller lui-même visiter le prisonnier aussitôt après la messe, et ou de le faire entrer au couvent, dit-il, ou bien d'y perdre lui-même son latin. L'aventure le toucha si fort qu'il en allait oublier les lettres. Il les lut vite pendant que le premier coup de l'office tintait à l'église métropolitaine, et il dit à Gilles « Mais comment avez-vous reçu cela ?» Gilles mit un doigt sur sa bouche. « Je vous le dirai bien, mais ça n'est pas croyable. » Le jeune homme, incomplètement initié aux sciences professées dans les pavillons, s'écria « Peste !» Ses joues s'empourprèrent. Il était avide de merveilles, et l'aventure des filles du bûcheron l'intéressait plus que tout au monde. Gardons le secret. Toute parole, en effet, pourrait être fatale. Et il remonta sur son beau cheval bai.